VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 6 juillet 2015. À la une ce soir.
Sommet en Tanzanie sur la crise burundaise. Les dirigeants est-africains demandent un report de la présidentielle du 15 juillet.
Burkina Faso, pas de crise au sein du gouvernement, affirme le Premier ministre Isaac Zida, démentant les nouvelles sur son départ de l'équipe de transition.
La Grèce restera-t-elle dans la zone euro ? De nouvelles négociations sont en cours après le vote massif des Grecs contre le plan d'austérité international.
Et nous verrons aussi l'impact éventuel de la crise grecque sur les économies africaines.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Lors de leur sommet de ce lundi à Dar es Salaam, les dirigeants est-africains ont à nouveau demandé le report de la présidentielle prévue le 15 juillet au Burundi. Camille Gros-Didier.
Pour ce troisième sommet de la communauté est-africaine consacrée au Burundi, n'étaient présents que le Tanzanien Jakaya Kikwete, hôte de la Réunion, et l'Ougandais Yoweri Museveni. Les présidents burundais, rwandais et kenyans avaient choisi de se faire représenter par des ministres. Au terme de la rencontre, les dirigeants ont demandé que l'élection soit reportée au 30 juillet, l'espoir étant que d'ici là, M. Museveni, le médiateur dans la crise, aura pu enclencher un dialogue entre les parties burundaises. Par ailleurs, les dirigeants de la communauté est-africaine ont demandé que, quelle que soit l'issue de la présidentielle, on mette en place un gouvernement d'union nationale pour rassembler ceux qui auront soit participé au scrutin, soit l'auront boudé. La crise à Bujumbura a connu un nouveau rebondissement avec la réapparition des auteurs du putsch avorté de la mi-mai au Burundi. Léonard Ngenda Kumana, l'un des généraux à l'origine du coup d'État avorté, a affirmé sur la chaîne de télévision kényane KTN que les anciens militaires poursuivraient leur action jusqu'au départ du président Pierre Nkurunziza.
À Ouagadougou, une semaine après les tirs de mécontentement nocturne dans le camp du régiment de sécurité présidentielle, le Premier ministre Isaac Zida, ancien du RSP, a dit clairement qu'il ne démissionnerait pas. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Avant de s'envoler pour un déplacement officiel en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement burkinabé a tenu à faire taire les rumeurs dans une base militaire de Ouagadougou proche de l'aéroport. Des sites internet et radio burkinabé avaient évoqué dimanche une possible démission du Premier ministre. J'ai suivi comme vous les informations erronées dans la presse. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire qu'il n'en est rien. Au sein du gouvernement, il n'y a aucune crise. Le Premier ministre est toujours en place. Plaise à Dieu, a mis au point M. Zida. Le Burkina Faso connaît depuis plus d'une semaine une nouvelle crise autour du régiment de sécurité présidentielle. Ce corps d'élite qui fut le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré exige le limogeage du lieutenant-colonel Zida, qui était pourtant son numéro 2. Les chefs militaires burkinabés ont de leur côté demandé vendredi au président Michel Kafando, qui tente de jouer les médiateurs, la formation d'un gouvernement composé de civils pour mettre fin à cette nouvelle crise. C'est ce qu'ont confié deux sources militaires interrogées par l'agence France Presse. Que ce soit X ou Y, ce qui est important, c'est que nous puissions conduire cette transition, que nous puissions parvenir aux élections le 11 octobre, a lancé M. Zida.
Et violence dans le nord-ouest du Nigeria. 37 personnes ont été tuées à Sigama, dans l'état de Zamfara. Les assaillants, une cinquantaine d'hommes armés, sont soupçonnés d'être des voleurs de bétail. D'après un responsable local interrogé par l'AFP, ils ont tiré à l'aveugle, brûlé plusieurs maisons et pris du bétail. Ce massacre serait une riposte à une descente des miliciens de Sigama sur le village voisin de Kokeya, où ils avaient tué deux personnes.
Nigeria, toujours à Jos, dans le centre du pays. Au moins 44 personnes ont été tuées hier soir par deux explosions près d'un centre commercial. L'Agence nationale de gestion d'urgence compte également 47 blessés. Les circonstances des explosions n'ont pas été précisées et les attaques n'ont pas été revendiquées.
Les combats persistent au Soudan du Sud. L'armée sud-soudanaise affirme avoir repris aux rebelles le contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. Des rebelles, souvenez-vous, s'étaient emparés de la ville fin juin.
Au Soudan, la justice a condamné trois dirigeants d'une petite formation de l'opposition. D'après un porte-parole de ce parti cité par l'AFP, leur sentence, c'était 20 coups de fouet pour perturbation de l'ordre public. Sentence exécutée immédiatement dans la cour du tribunal.
À Nairobi, la capitale kényane, des manifestants anti-homosexualité ont appelé le président américain Barack Obama à s'abstenir de plaider pour le droit des gays lors de sa visite dans le pays fin juillet.
Lutte contre le terrorisme dans la péninsule du Sinaï, l'armée égyptienne a annoncé avoir tué 241 combattants en 5 jours, dont des djihadistes de l'organisation État islamique. Par ailleurs, 4 personnes recherchées et 29 suspects ont été arrêtés, selon un communiqué de l'armée égyptienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Allemagne a douché ce lundi l'espoir du Premier ministre grec Alexis Tsipras de conclure rapidement un accord sur la reprise du financement de son pays, fort de sa victoire au référendum, qui, aux yeux de Berlin, éloigne les deux parties d'une reprise immédiate des négociations. Un survol des derniers développements dans la crise grecque avec Jacques Aristide.
La décision d'Alexis Tsipras de sacrifier son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, avant un sommet franco-allemand crucial à Paris, n'a pas amadoué Berlin. Le gouvernement d'Angela Merkel a rappelé que l'essentiel dans les discussions entre Athènes et ses créanciers sont les positions et non les personnes, et que les conditions pour les négociations autour d'un nouveau programme d'aide ne sont pas réunies. L'Allemagne d'ajouter que c'est aux Grecs de tout faire pour demeurer dans la zone euro, rapporte l'AFP. La situation est d'autant plus urgente que la Grèce n'a plus d'argent, ses banques sont fermées depuis une semaine et fragilisées par les récents retraits massifs. Le gouvernement grec, conscient de la gravité du moment, a convoqué une réunion des chefs de pratiquement tous les partis. Paris a appelé les Grecs à faire de nouvelles propositions. L'Espagne, elle, est favorable à une négociation pour un troisième plan de sauvetage. L'Italie demande à Athènes et ses créanciers d'indiquer une voie définitive de sortie de crise lors des réunions européennes des prochaines heures. Mais d'autres évoquent ouvertement l'hypothèse d'un Grexit. L'Eurogroupe a quant à lui estimé que la victoire du non ne rapproche pas l'Europe d'une solution avec Athènes. Et la Russie de Vladimir Poutine a exprimé son soutien au peuple grec et espéré un compromis. Les marchés européens, eux, perdaient du terrain ce lundi à la mi-journée.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du groupe des 6 se sont réunis à Vienne dans un ultime effort de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien un jour avant leur dernier délai. Michel Joseph.
Les diplomates ont fait part de quelques progrès. Ils ont aussi souligné la nécessité de finaliser les questions non résolues dans leur tentative de limiter l'activité nucléaire iranienne en échange d'un allègement des sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré dimanche soir que les différends demeurent et que les deux parties tentent de s'accorder. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain John Kerry avait déclaré qu'un accord n'avait jamais été aussi près, mais qu'il y avait encore des questions en suspens. Messieurs Kerry et Zarif se sont rencontrés plusieurs fois hier pour des pourparlers qui ont suivi une avancée sur le rythme auquel les sanctions seraient levées et une enquête de l'ONU en vue de déterminer si les activités nucléaires de l'Iran visaient à développer des armes.
Et 7 personnes ont trouvé la mort et au moins 11 autres ont été blessées aujourd'hui dans une frappe de l'aviation irakienne sur un quartier de l'est de Bagdad. Selon un porte-parole, l'appareil avait des difficultés techniques et la bombe est tombée par accident. Plusieurs maisons ont été détruites. L'avion participait à une mission contre le groupe État islamique qui occupe de larges pans de territoire, y compris de grandes villes dans le nord et l'ouest de l'Irak depuis l'année dernière.
Le groupe État islamique a attaqué aujourd'hui une localité du nord de la Syrie, d'où il avait été chassé il y a 10 jours par les Kurdes et les rebelles arabes. Un porte-parole des forces kurdes a confirmé à l'AFP l'assaut contre Ayn Nissa, mais il soutient que la ville n'est pas tombée aux mains des djihadistes. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de la prise d'Ayn Nissa et de plusieurs villages de la région. Les djihadistes auraient perdu 37 combattants et enregistré 46 blessés lors de cette offensive. Leur capitale, Raqqa, se trouve à seulement 55 km d'Ayn Nissa.
Et visite d'une semaine du chef de l'Église catholique en Amérique du Sud. Arrivé hier à Quito, en Équateur, le pape François s'est rendu aujourd'hui à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays, pour une messe en plein air devant plus d'un million de personnes. Une autre messe est prévue dans la capitale demain mardi, puis le Saint-Père s'envolera pour la Bolivie et le Paraguay. Lors de ce 9e voyage pontifical, François n'ira pas en Argentine, son pays natal, mais il prévoit de s'y rendre l'année prochaine. Le pape est attendu ici aux États-Unis et à Cuba en septembre prochain.
Une vague de violence s'est abattue sur la ville de Chicago, dans l'Illinois, durant le week-end. Au moins 9 morts, bilan avancé par les autorités américaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
Le gouvernement béninois a décidé de créer un bureau de l'auditeur, organe doté d'une autonomie financière et d'une indépendance, pour une véritable lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Dans un communiqué publié dimanche à Cotonou, le gouvernement précise que cet organe sera présidé par un auditeur général et reflète sa volonté de lutter contre la mauvaise gouvernance au sein de l'État et des entreprises publiques. Le bureau de l'auditeur va remplacer l'inspection générale de l'État, créée par décret en 2006, avec pour compétence générale de contrôle et d'inspection sur le fonctionnement normal et régulier de l'ensemble des services de l'État et des collectivités locales. Et puis, au lendemain du non des électeurs grecs au référendum de dimanche, le Fonds monétaire international a enfin réagi dans un communiqué particulièrement bref lundi. Le FMI a pris acte du référendum tenu en Grèce hier. Nous surveillons la situation de près et nous nous tenons prêts à aider la Grèce si on nous en fait la demande. C'est contenté de dire la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Les Grecs ont massivement dit non aux réformes et coupes budgétaires exigées par les créanciers d'Athènes, à savoir le FMI, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, en échange d'un nouveau renflouement. À noter que comme la Grèce a fait défaut le 30 juin vis-à-vis du FMI, celui-ci ne peut plus lui apporter la moindre assistance financière tant que les arriérés de 1,5 milliard d'euros n'auront pas été soldés.
Merci Camille Grosdidier pour la Minute Éco.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Après le premier tour ce week-end des éliminatoires du CHAN 2016, on connaît désormais le programme du second tour prévu au mois d'octobre.
Pas de surprise dans la zone nord avec le tournoi retour pour le Maroc, la Tunisie et la Libye. En Afrique de l'Ouest, dans la zone A, le Mali face à la Mauritanie et la Guinée contre le Sénégal. Dans la zone B, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso et Niger, Togo. Dans la zone centrale, la RDC contre la Centrafrique, le Cameroun face au Congo et le Tchad qui accueillera le Gabon. Dans la zone centre-est, pour accompagner le Rwanda, pays organisateur et donc déjà qualifié pour ce CHAN 2016, l'Ouganda fera face au Soudan et le Burundi accueillera l'Éthiopie. Enfin, dans la zone sud, Zimbabwe-Lesotho, le Mozambique en déplacement en Zambie et l'Angola qui ira en Afrique du Sud. Les premières rencontres auront lieu les week-ends du 16 et 18 octobre.
Et on reparle du scandale de la corruption à la FIFA.
Le Chilien Harold Main Nichols, ancien président du comité d'évaluation des mondiaux 2018 et 2022, a été suspendu pour 7 ans de toute activité liée au football. Sans donner plus de détails, l'instance du football mondial explique que le Chilien a violé l'article 36 de son code éthique relatif à une clause de confidentialité.
Retour sur la belle victoire des Américaines à la Coupe du monde de football au Canada.
Les États-Unis ont remporté dimanche à Vancouver leur troisième titre après ceux de 91 et 99 en écrasant le Japon 5 buts à 2. Carly Lloyd, auteur d'un triplé, a été sacrée meilleure joueuse du tournoi et le président américain Barack Obama qui a félicité les footballeuses en les invitant toutes à la Maison-Blanche.
Rubrique transfert.
L'ailier international portugais Nani, prêté la saison dernière au Sporting de Lisbonne par Manchester United, a signé un contrat de 3 ans avec Fenerbahçe. Le montant du transfert acquitté par la formation Stambouliote au club britannique se monte à 6 millions d'euros, a précisé Fenerbahçe.
Et enfin, tennis sur la pelouse de Wimbledon.
Oui, la numéro 1 mondiale Serena Williams a dominé sa sœur Vénus en 2-7, 6-4, 6-3 pour accéder au quart de finale du tournoi de Londres. La Danoise Caroline Wozniacki, 5e joueuse mondiale, a en revanche été éliminée en 6-4, 6-4 par l'Espagnole Garbine Muguruza.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, la République démocratique du Congo.
Et des enquêtes sont ouvertes après la plainte du président Joseph Kabila pour corruption contre des mandataires de l'État. Eddy Sango a tenté d'en savoir plus sur l'enquête auprès du procureur général de la République, Flori Kabongé Numbi.
Je vous dis d'abord que je n'ai pas reçu une plainte du président de la République. J'ai reçu des dénonciations comme j'en reçois chaque jour dans le cadre de mes fonctions. Cette fois-ci, le mardi 23, j'ai reçu les dénonciations qui sont déposées au cabinet du Conseil spécial de l'État en matière de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. J'ai venu les déposer à mon office. Ce sont des dénonciations de gens qui se rapportent à la gestion dans plusieurs entreprises de la place, ainsi qu'à certains faits qui se rapportent au transfert des bénéfices et des capitaux de devises.
L'agence France-Presse qui dit avoir vu la dénonciation ou la plainte cite les noms de certains gouverneurs. Il y a 4 gouverneurs, dont celui de la province du Katanga. Est-ce que vous confirmez cela?
Les documents qui ont été déposés à mon office ne contiennent aucun nom. Les documents qui ont été déposés à mon office n'ont pas été publiés, mais ne sont pas passés. Ils sont en train de faire des enquêtes là-dessus. Ça n'a rien à voir avec un règlement quelconque de compte en politique. Ce sont des vérifications de faits de droit commun. J'en reçois chaque jour ici.
On parle des poches du président de la République. On parle par exemple de l'affaire de l'installation de la fibre optique pour laquelle il y a eu beaucoup de milliards de dollars et dont les résultats ne sont pas
satisfaisants. J'ai une phrase dans les documents déposés à mon office sur le conseiller du Zolo qui rapporte à l'installation de fibre optique sur notre territoire. Nous venons commencer l'enquête, mais c'est difficile de vous dire que ça va prendre combien de temps. Ce sont des investigations que nous allons mener à travers les inspecteurs.
Quels sont les secteurs qui sont concernés par ces détournements et de fraudes dont les dénonciations parlent?
Tout cela nous sera révélé par les enquêtes, par les enquêteurs.
Est-ce que vous pouvez assurer que la justice pourra opérer de manière indépendante sans aucune interférence de la politique?
Il m'appartient de les destiner aux inspecteurs ou aux magistrats compétents pour les examiner et commencer les enquêtes. Notre code pénal, c'est un arsenal juridique et prévoit beaucoup de peines pour certaines, pour plusieurs infractions. Il est difficile pour moi, à l'heure actuelle, que je vous dise tels faits sont punis de telles peines.
Flori Kabongé Numbi à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a bouclé une tournée de 3 jours dans le pays afin de faire le point sur l'enquête judiciaire concernant les crimes commis le 28 septembre 2009. 157 personnes, on se le rappelle, avaient été tuées et au moins 109 femmes violées. Madame Bensouda s'est félicitée des progrès effectués dans cette enquête. Un point de vue partagé sur place par le journaliste et directeur du site internet Guinée 7, Ibrahima Seri Traoré.
C'est la période des vaches maigres pour les restaurateurs de la cité des Askia. La rareté des clients oblige certains à fermer tout simplement la journée, comme nous l'explique Mohamed Issouf Meïga du restaurant La Dune Rose au 6e quartier.
Nous allons entendre ce reportage venant du nord du Mali dans quelques instants, mais juste avant, essayons de revenir sur les déclarations d'Ibrahima Seri Traoré, le journaliste et directeur du site internet Guinée 7, concernant la Guinée.
Je pense qu'elle a des raisons de se féliciter des avancées, parce que déjà nous sommes à une vingtaine de personnes inculpées dans ce dossier, que ce soit des civils et surtout des militaires. Environ 400 personnes qui sont déjà entendues, c'est-à-dire des victimes qui sont déjà entendues par le pool des juges. Et je crois qu'il y a vraiment des raisons d'espérer parce que Au départ, ce n'était pas donné. Vous savez, la Guinée, c'est quand même un pays où l'armée était jusque-là très, très présente dans toutes les sphères. Et quand on réussit quand même à inculper des militaires, et surtout qui sont aussi proches du régime actuel, parce qu'il y en a qui sont inculpés, mais qui sont encore en exercice et qui travaillent avec le président actuel.
Fatou Bensouda a été très précise. Elle a parlé d'une instruction qu'on pourrait clôturer en octobre prochain avec un jugement dès le premier trimestre 2016. Est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, cela va être possible?
Oui, ça va être possible à mon avis. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on a inculpé les gens, les juges ont agi de manière très indépendante et des moyens supplémentaires ont été mis à leur disposition, c'est justement une autre raison d'espérer. Et je crois que les juges ils peuvent travailler sereinement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce procès, s'il a lieu, va être très très important pour l'histoire de la Guinée. Pourquoi ? Parce que ça va être l'une des premières fois qu'un tel crime ait lieu et qu'il y ait un procès autour. Il s'agit quand même d'environ 150 personnes et des centaines de femmes violées dans un stade que les gardes et les militaires sont venus fermer pendant un meeting politique. Et voilà, s'il y a un procès comme cela, ça aide beaucoup à la compréhension des choses, mais surtout à la lutte contre l'impunité. Parce que la Guinée, c'est quand même un pays où il y a eu assez de crimes hein, par le passé. Pendant le régime de Sékou Touré, il y en a eu. Après, pendant l'ancien Conté, il y en a eu. Et après, pendant cette junte militaire aussi, il y en a eu. Je crois que s'il y a un procès autour du 28 septembre, ça va aider quand même à ressouder un peu ce tissu social qui part souvent en lambeaux par le fait de l'impunité.
Ibrahima Seré Traoré, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Et nous partons maintenant à Gao, dans le nord du Mali, où les restaurants tournent au ralenti en ce mois de Ramadan, alors que les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever du jour au coucher du soleil. Certains établissements ont donc fermé, faute de clients, d'autres n'assurent que le service minimum. Correspondance de Boubacar Touré.
C'est la période des vaches maigres pour les restaurateurs de la cité des Askia. La rareté des clients oblige certains à fermer tout simplement la journée, comme nous l'explique Mohamed Issouf Meiga du restaurant La Dune Rose au 6e quartier.
Il n'y a pas beaucoup de clients ici, c'est ça qu'ils n'ont pas travaillé de la journée quand même. Sinon, s'il n'y a pas de bois de carré, on va travailler 6h à 18h.
Jean-Claude Sévi de Touffé est le responsable du restaurant La Source du Nord, situé près du marché de légumes. Pour lui, il n'est pas du tout facile de gérer un restaurant à Gao, surtout en cette période de carême.
Sincèrement, ce n'est pas facile, étant donné que les gens jeûnent beaucoup. Mais je peux dire que nous avons une petite clientèle, mais qui n'est pas locale. C'est plutôt les étrangers.
Avant le Ramadan, sans être indiscret, par jour, combien sont vos recettes?
Effectivement, il y a un manque à gagner, parce que nous ne faisons pas tous les plats que nous faisons d'habitude. Effectivement, elles sont un peu moins qu'en temps normal où il y a une affluence. Nous sommes à 30 000, 25 000 par jour, une trentaine de plats. La promotrice même a diminué dans la quantité pour effectivement ne pas se retrouver des fois avec des restants qu'elle est obligée de redistribuer dans les quartiers aux gens.
Le restaurant La Case Mystérieuse est situé au 5e quartier. Il est géré par une dame qui met l'accent sur la charité des prix des articles et reconnaît que les commandes sont rares en cette période de Ramadan.
Notre marché va diminuer. Surtout, c'est le marché qui nous fatigue. Le marché est très cher. Pour trouver les légumes, on a des difficultés. Notre activité est là, il y a des commandes, mais pas comme d'habitude.
Ali Ould Mohamed est l'un des rares clients que nous avons rencontrés au restaurant La Dune Rose.
Celui-là, je goûte ce plat délicieux ici, du couscous. Oui, ça passe.
Comment goûte le plat?
150 avec deux morceaux de viande, un verre d'eau. Tout le temps, j'ai passé ici. Il y avait beaucoup de monde même, je dirais. Ouais, mais maintenant, je pense que tout le monde est en carême.
Moussa Abdelkarim Mega, Dijgla étant malade, n'a pas pu gêner cette année. Dans sa famille, tout le monde est en jeûne. Comment fait-il pour manger la journée?
C'est très mal vu d'aller dans les restaurants dans notre milieu, surtout en ce mois-ci. Souvent, tu vois, il n'y a rien. Souvent aussi, tu ne trouves pas ton goût. Si tout le monde gêne, même si tu ne gênes pas, tu es là-dedans. La journée, même la cigarette, on n'arrive pas à tirer dans la rue.
Les restaurateurs de Gao ont besoin de financement et de formation adéquate pour offrir des meilleurs services à leur clientèle. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le rand sud-africain s'est affaibli ce lundi à l'heure où la crise de la zone euro a pris des proportions alarmantes après le rejet massif hier du plan de réforme des créanciers de la Grèce. Un nom grec qui fait trembler la zone euro, zone qui est la destination la plus importante pour les exportations de l'Afrique du Sud. Mais pour les analystes, la réaction de la monnaie sud-africaine ne sera que de courte durée. Des médias et experts africains s'interrogent également sur les conséquences pour les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, membre de la zone franc CFA, alors que l'Union européenne peine à résoudre les problèmes liés à la dette grecque et voit sa monnaie se déprécier face au dollar. Pour un éclairage, Jacques Aristide s'est entretenu avec l'analyste économique congolais Al Kitenge.
D'abord, je ne crois qu'il n'y aura pas de crise grecque parce que, du point de vue des rapports de force, le peuple grec a donné un message important. Les dirigeants doivent être redevables non pas vis-à-vis des institutions internationales, mais redevables vis-à-vis des peuples qui les mettent en place. Ça, c'est une leçon fondamentale que l'Afrique devra prendre, premièrement. Deuxièmement, du point de vue de l'économie même, je ne vois pas ce que pourrait être l'impact réel de la crise grecque sur l'Afrique. C'est vrai que si nous tombons dans une crise grecque, il n'y a aucun pays européen responsable qui permettrait que cela arrive, il y aura un impact d'abord sur l'Europe, avant qu'il y ait un impact quelconque sur l'Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'échange, l'Europe et l'Afrique, nous n'avons pas un grand taux d'échange de commerce international. Et il faut savoir aussi qu'en termes de monnaie, la monnaie dominante sur le continent, c'est plutôt le dollar. À partir du moment où les rapports de force entre les institutions financières et purement financières et le pouvoir public commence à se rééquilibrer, on va avoir finalement une économie responsable et raisonnable. Donc il est important qu'on se rende compte que quelles que soient les décisions que l'on prend, du point de vue macroéconomique ou supraéconomique, on les prend pour des êtres humains qui doivent rester en vie. La situation de la Grèce aujourd'hui, elle n'est pas due au management grec d'aujourd'hui, c'est un passé. Ça veut dire qu'en réalité, de bonne foi, tous les différents partenaires européens et autres de la Grèce doivent se rendre compte qu'ils ont l'opportunité d'avoir en face d'eux des personnes responsables avec qui ils doivent prendre des décisions viables et s'assurer qu'il y a une discipline d'exécution. Mais avant ça, ça doit être équitable.
Il y a des médias africains qui estiment que s'il y a une éventuelle contagion de la crise grecque en Europe, cela pourrait avoir un impact sur les fermiers, les pêcheurs, les hôteliers en Afrique.
C'est une erreur fondamentale d'appréciation qui relève de l'Afrique. Il faut quand même savoir aussi que l'économie africaine, elle est afro-africaine avant d'être une économie internationale. C'est vrai que certains pays ont un impact assez important des secteurs comme le tourisme sur leur économie, mais encore que les touristes aujourd'hui sont de plus en plus chinois. Et donc il ne faut pas exagérer sur l'impact que pourrait avoir une hypothétique crise grecque sur les économies africaines. En tout cas, je ne vois pas exactement à quel point ça pourrait être un impact majeur. Je ne crois pas du tout, ce n'est pas faisable.
Al Kitenge est président directeur général du groupe Synergie. Il était joint à Kinshasa.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et on est ensemble 24 sur 24 sur voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.